Bonjour, bienvenue pour ce deuxième partie de la journée. Avant que Hervé González va introduire les intervenants, je voudrais juste demander aux personnes qui, par mégarde, auraient pris quelques livres et ne pas ramené, qui étaient exposés par les éditions Peters, de les ramener, parce que ce n'est pas très sympa de se faire dérober comme ça. Donc, voilà, essayez de les ramener ou de les payer, c'est aussi possible. Voilà, et puis je donne la parole à Hervé.
Voilà, donc nous reprenons cette journée de colloque à l'heure. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille Anne Billman Sanchez et Giuseppina Lenzo, donc de l'Université de Lausanne, Institut d'archéologie des sciences de l'Antiquité, spécialistes notamment des reines lagides, puisqu'elles ont publié ensemble une monographie très fouillée sur les deux premières Cléopâtres au IIe siècle et encore d'autres études sur la question des femmes publiques dans l'Antiquité. Donc c'est avec grand plaisir qu'on va les entendre sur la question des reines lagides du 3e et 2e siècle avant notre ère, une lente marche vers le pouvoir. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous participons à ce colloque sur le pouvoir féminin dans l'Antiquité. Et nous remercions vivement les organisateurs de nous avoir conviés précisément pour parler des reines lagides. Dans notre exposé, nous voudrions présenter les sources. Pardon, petit problème technique. Voilà. Dans notre exposé, nous voudrions présenter les sources disponibles sur ces reines et analyser la manière ou montrer la manière dont nous allons les traiter. Commenter certaines caractéristiques du royaume lagide, puis de Bérénice I à Cléopâtre II, donc de 300 à 115 avant notre ère, repérer les étapes clés pour le statut des reines, identifier les principales innovations dans ce statut des reines, règne par règne, et enfin analyser les éléments qui, selon nous, ont favorisé le pouvoir des reines. Quelques rappels d'abord du cadre chronologique et géographique. En 331-330 avant notre ère, Alexandre reprend l'Égypte aux Perses. Ptolémée, l'un des officiers compagnons d'Alexandre, participe à la campagne. En 323, mort d'Alexandre le Grand, Ptolémée s'attribue alors immédiatement, se réserve en quelque sorte, l'Égypte. En 304, Ptolémée prend le titre royal et il fonde ainsi la dynastie ptolémaïque ou lagide, le père de Ptolémée s'appelant Lagos. Et de 304 à 30 avant notre ère, 27 règnes successifs vont se succéder au sein de cette dynastie lagide. Sur la carte, la zone en orange montre l'extension maximale du royaume lagide, à savoir l'Égypte à proprement parler, la Cyrénaïque, donc la Libye, Chypre, le sud du Proche-Orient et quelques zones en Asie mineure. Et sur cet arbre généalogique des lagides, le carré jaune délimite les reines dont nous traiterons aujourd'hui, de Bérénice I à Cléopâtre II.
Alors, afin d'avoir un cadre le plus complet possible sur ces reines lagides, il est nécessaire d'aborder toutes les catégories de sources dont nous disposons sur cette thématique. C'est ce que vous avez sur cette diapositive, un échantillon des différents types de sources, et vous voyez d'emblée qu'elles sont assez différentes. Nous avons d'abord des papyrus tout en haut, que ce soit en égyptien, en démotique pour les papyrus, ou en grec, à droite. On a aussi des monnaies, des inscriptions grecques au milieu, ou des inscriptions sur les parois de temples égyptiens avec des scènes, ou encore des décrets qui, eux, peuvent être bilingues avec trois écritures, le grec, l'égyptien, avec les hiéroglyphes et le domotique. Et enfin, les sources classiques, par exemple ici, on a mis Justin, mais on a d'autres auteurs grecs et latins qui nous parlent de cette période. Donc ça fait passablement de documents différents, de sources différentes et dans des langues différentes. C'est pourquoi nous travaillons en équipe, en l'occurrence à deux, Anne Billman traitant les sources en grec et en latin, et moi-même je m'occupe des sources en langue égyptienne. Nous travaillons ensemble, chacune analyse ses sources dans la propre langue de spécialisation, puis nous mettons en commun et nous écrivons et préparons nos conférences et nos articles à deux, donc à quatre mains. Il nous reste enfin à préciser que le nombre de sources est considérable. Rien que pour Cléopâtre II, on a environ 1000 références. Alors évidemment, plus ou moins longues, certaines fois il y a des répétitions, mais 1000 occurrences, évidemment, c'est énorme, et nous avons évidemment fait un choix pour la présentation d'aujourd'hui avec les sources qui nous semblaient les plus pertinentes pour notre propos. Alors, avant d'aborder la thématique même, j'aimerais vous présenter tout d'abord comment fonctionne un papyrus. Pour, disons, c'est une de nos sources principales. Là, vous avez un exemple de papyrus de Ptolémée VI Philométor en démotique. Le début du papyrus, que ce soit en grec ou en démotique, c'est exactement la même structure, commence par ce que vous avez dans le petit carré blanc, par ce qu'on appelle le protocole. D'abord, vous avez la date. Ici, en l'occurrence, c'est le 8 avril 176. Le nom du pharaon avec la filiation, donc Ptolémée, fils de Ptolémée, et le nom de la reine, donc ici Cléopâtre. Et puis, on a également le nom du prêtre qui était nommé chaque année à Alexandrie pour assurer le culte d'Alexandre, mais aussi des souverains divinisés. Dans ce contexte, la reine est systématiquement associée au roi et elle partage avec lui la même épithète divine. Par ailleurs, certaines reines bénéficient également d'une prêtresse éponyme qui est consacrée uniquement à leur culte, donc pour Alexandrie. Sous le règne de Ptolémée IV Philopator, donc vers 215-214, un prêtre éponyme est également nommé dans une autre ville grecque, Ptolémaïs, cette fois dans le sud du pays. Certaines reines, là aussi, bénéficient également d'un culte effectué par une prêtresse à Ptolémaïs. Donc ces prêtrises, surtout celles en Thébaïde, malheureusement ne sont pas toujours écrites de manière détaillée, mais lorsqu'elles le sont, elles nous fournissent des éléments intéressants sur le statut et le rôle que pouvaient revêtir les reines, notamment si elles sont indiquées tout au début du protocole, comme on va le voir tout à l'heure. Alors je vous donne un exemple, c'est l'exemple que vous avez sur l'exemplier, donc il y avait un exemplier à l'entrée avec un certain nombre de sources, c'est la source numéro 1. Vous avez donc le texte, en grec, cette fois-ci c'est un exemple en grec, avec la traduction, et au-dessous, vous avez un tableau avec l'identification des rois pour que vous puissiez comprendre de quel roi il s'agit. Mais le texte est également ici à l'écran. Alors, dans un premier temps, en jaune, vous avez donc le nom du roi et de la reine sur le trône avec le nom des parents. Donc ici, sous le règne conjoint de Ptolémée, en l'occurrence 6, et de Cléopâtre 2, les enfants de Ptolémée 5 et de Cléopâtre, Dieu Épiphane, en 29. La présence de Cléopâtre n'est pas anodine ici. Le fait qu'elle soit présente ici, si on compare avec d'autres sources, tout seul, ça nous dirait, on pourrait encore hésiter, mais lorsqu'on regarde d'autres documents, comme vous le montrera tout à l'heure, nous indique qu'elle a effectivement exercé un rôle politique réel, comme on le verra tout à l'heure. Vous avez aussi le nom de l'épithète Épiphane pour les parents, Ptolémée V et Cléopâtre I. Quelquefois, vous avez aussi l'épithète pour les dieux en activité, comme on le verra tout à l'heure. En rouge, cette fois, c'est le prêtre à Alexandrie. C'est le prêtre d'Alexandre et d'Élagie divinisée. Donc ici, le prêtre d'Alexandre, des dieux Sotère, des dieux Adelphes, des dieux Évergète, des dieux Philopator, des dieux Épiphane et des dieux Philométor. Donc après Alexandre le Grand, chaque couple royal est indiqué par son épithète divine jusqu'au roi et la reine en activité, donc ici Ptolémée VI et Cléopâtre II, les dieux Philométor. Donc le culte est organisé autour du couple royal et non de manière indépendante, uniquement par exemple pour le roi. Ce n'est pas le cas. Enfin, en bleu, vous avez l'indication des prêtresses à Alexandrie. Donc ici, vous avez l'Atlophore de Bérénice II et Vergète, la Canéphore d'Arsinoé II, Philadelphe, et la prêtresse d'Arsinoé III, Philopator. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans certains cas, vous avez aussi les prêtres et prêtresses de Ptolémaïs qui sont indiqués. Je ne les ai pas mis ici parce que ça aurait fait encore plus long. C'était juste pour vous donner un exemple, pour voir comment fonctionnent ces documents qui demeurent quand même la principale source sur laquelle nous nous sommes basés.
Alors, je vous propose de passer maintenant à l'analyse des reines, règne par règne, comme nous l'avons proposé. Mais je vous explique juste comment vont fonctionner nos différentes diapositives. À chaque fois que nous introduirons une nouvelle reine, vous trouverez en haut à droite un petit arbre généalogique qui va vous permettre de vous repérer un peu dans cette gigantesque dynastie lagide. Donc, passons à la première des reines lagides, Bérénice I. Ce qui était la seconde épouse de Ptolémée I, elle n'a probablement joué aucun rôle public du vivant de Ptolémée I. En revanche, on sait que Ptolémée I avait favorisé de son vivant les enfants de sa seconde épouse, donc Bérénice I, au détriment des enfants de sa première épouse Eurydice. Cela aboutit à la création d'une lignée dynastique préférentielle. Une fois monté sur le trône, Ptolémée II, le fils de Ptolémée I et Bérénice I, a cherché à renforcer son avantage sur ses demi-frères. Pour cela, il va instrumentaliser la figure de sa mère à titre posthume. D'abord, il fait diviniser Bérénice I en même temps que Ptolémée I vers 279 avant notre ère, et il instaure un culte dynastique pour Alexandre et pour ses parents divinisés en tant que Théoi Soteres, dieu sauveur. Ensuite, il confie au poète de cour Théocrite la tâche de glorifier les amours de ses parents, tout en rappelant, tout en insistant sur la nature divine de Bérénice I. Ces éléments sont illustrés sur la monnaie que nous présentons ici, une octadrachme d'or, frappée à Alexandrie sous le règne de Ptolémée II. Vous voyez sur une face les bustes jumelés de Ptolémée I et Bérénice I, avec la légende Théon, Dieu. L'autre face montre les bustes jumelés de Ptolémée II et sa sœur épouse Arsinoé II, avec la légende Adelphone, frère-sœur. Cette monnaie témoigne précisément de l'exploitation posthume de la figure de Bérénice I, conjointement à celle de Ptolémée I. En effet, par le génitif pluriel Théon, qui est inscrit au-dessus des portraits de Ptolémée I et Bérénice I, Ptolémée II affirme le caractère divin de ses deux parents, et il acquiert ainsi une double ascendance divine qui le place nécessairement au-dessus de ses demi-frères, nés de Ptolémée I et Eurydice, qui n'avaient malheureusement qu'un seul parent divin à revendiquer. La similitude entre les deux faces de la monnaie, qui empêche d'ailleurs de distinguer clairement l'avers et le revers, et la ressemblance entre les portraits amène le spectateur à confondre le couple divin des parents et le couple quasi-divin de leurs descendants.
Passons maintenant à Arsinoé II. C'est probablement la reine la plus connue de cette période, si on exclut la célèbre Cléopâtre VII. Pourquoi est-ce qu'elle est connue ? C'est en raison notamment de sa divinisation posthume, non seulement en Égypte, son culte va se diffuser en Égypte, mais également dans tout le bassin méditerranéen, enfin dans une bonne partie du bassin méditerranéen. Arsinoé II, comme vous pouvez le voir à nouveau dans l'arbre généalogique que vous avez ici, donc après deux mariages hors d'Égypte, elle rentre en Égypte et elle épouse son frère Ptolémée II vers 275 à peu près. Donc ce mariage consanguin est célébré alors que les deux partenaires sont, disons, âgés pour l'époque, ils ont plus de 40 ans. Arsinoé II est alors intégré dans la politique dynastique de Ptolémée II en tant que dieu à Delphes, donc les dieux frères-sœurs, épithète qu'elle partage donc avec son époux à partir de 271 à peu près. Elle fait ensuite l'objet d'un culte spécifique après sa mort que l'on situe généralement en 270. Et peu après, une prêtresse, Lacanéphore, est consacrée à son culte à Alexandrie. Elle apparaît en tant que déesse dans les temples égyptiens ou sur des stèles. Vous avez ici l'exemple qui provient du temple de Philée, où vous avez Ptolémée II en train de faire des offrandes à la déesse tutélaire du temple Isis, et derrière laquelle vous avez Arsinoé II. Arsinoé II, pour laquelle les prêtres égyptiens ont établi une couronne qui lui est tout à fait particulière. Elle lui est attribuée, elle est créée pour elle. Quelques autres reines vont la porter après elle, mais c'est assez rare. Donc, elle est intégrée clairement dans le culte des temples en Égypte, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, son culte s'étend au-delà des frontières de l'Égypte. Et à titre d'exemple, on a pris cet autel trouvé à Kourion, à Chypre, où vous avez, peut-être pas très bien, mais vous avez une inscription en grec qui nous indique qu'elle est bien consacrée, que l'autel est bien consacré à Arsinoé Philadelphe. Elle est également fortement présente sur le monnayage. Au final, Arsinoé II donc, sert essentiellement à la politique dynastique de son frère époux Ptolémée II et devient une figure de premier plan dans la dynastie Lagide en raison de son statut posthume de déesse. C'est surtout ça qui fait, disons, l'importance du rôle d'Arsinoé II.
Passons maintenant à Bérénice II. Et Bérénice II est de son vivant la pièce maîtresse d'une propagande dynastique axée sur l'amour conjugal et le couple. La reine est associée à ce que l'on appellerait aujourd'hui une storytelling, donc un récit mis en scène par le poète de cour Callimaque dans son poème intitulé « La boucle de Bérénice ». Je résume en quelques mots cette affaire de la boucle. Quelques semaines après le mariage entre Ptolémée III et Bérénice II, en 246, le roi part en campagne militaire en Syrie. Bérénice, jeune épouse, fait alors le vœu de consacrer une boucle de ses cheveux dans le sanctuaire d'Arsinoé Aphrodite au cap Zéphirion, si le roi revient en bonne santé de la guerre. Au retour du roi, une année plus tard, en 245, Bérénice accomplit son vœu. Mais malheureusement, le lendemain du dépôt sacré de la boucle, eh bien, la boucle a disparu, envolée, emportée par le Zéphyr. L'astronome Conon de Samos, membre du Muséion, proche ami des souverains, démontre alors que la boucle envolée est devenue une nouvelle constellation dans le ciel. Cette astérisation de la boucle est présentée par Callimaque comme une forme de divinisation de la reine de son vivant par la volonté des dieux et non par la volonté des hommes, en récompense de l'amour que la reine portait à son royal époux. Le poème indique d'ailleurs que des rituels réservés aux femmes mariées étaient réalisés, accomplis en l'honneur de la reine astérisée. La monnaie que vous voyez ici, c'est une pentadrachme frappée sous le règne de Ptolémée III, reflète ces thèmes de propagande. L'avers présente le portrait de profil de Bérénice II, voilée et portant un sceptre sur l'épaule gauche. Tu peux juste le montrer avec ton... Tu vois, cette petite chose qui dépasse.
Je ne le vois pas.
Derrière le voile. Tu peux zoomer. Ah, mince, non. Pardon. Vas-y, remets-la juste. Bon, tant pis. Elle porte un sceptre sur l'épaule gauche qui passe derrière sa tête. Sur le revers, l'astérisation de la boucle royale est évoquée à travers les deux étoiles qui encadrent une corne d'abondance. Une légende monétaire entoure cette scène du revers. Berenices Basilices, donc monnaie sous-entendue de la reine Bérénice ou génitif, c'est la première attestation officielle de l'emploi du titre royal grec féminin, Basilissa, pour l'épouse d'un roi lagite. On peut donc interpréter le revers de la monnaie ainsi, ou l'ensemble de la monnaie ainsi, l'astérisation de la boucle, qui sanctionne et glorifie l'amour de la reine pour son époux, confère à Bérénice II un statut divin. Ce statut assure la prospérité de l'Égypte, prospérité caractérisée par la corne d'abondance, et justifie l'octroi du titre royal à Bérénice II.
Toujours pour la période qui concerne Bérénice II, nous allons nous déplacer à Karnak et on va regarder de plus près la porte dite des Vergettes, qui est une des entrées du temple du grand sanctuaire d'Amon à Karnak. C'est là que se trouve en effet l'une des plus anciennes représentations du culte dynastique à l'époque ptolémaïque dans un temple indigène. Donc vous avez une porte traditionnelle égyptienne avec des scènes partout sur la porte qui, pour la plupart, suivent tout à fait la tradition pharaonique des époques antérieures. Mais à deux endroits, de part et d'autre, en fait, sur le montant, justement ici, vous avez deux scènes qui se font face. Sur la première scène, sur la scène de gauche, Ptolémée III et Vergète, donc le roi en activité, donc on est entre 246 et 222 avant notre ère, il fait des offrandes à ses ancêtres, donc à Ptolémée II Philadelphe et Arsinoé II Philadelphe, que l'on reconnaît à nouveau grâce notamment à sa couronne. Pour comprendre les scènes des temples égyptiens, il faut toujours regarder ce qu'il y a autour et notamment ce qu'il y a en face. Vous avez un système, un principe de symétrie. Et si on regarde justement ce qu'il y a en face, vous avez une scène que l'on peut appeler une scène de réception de la royauté, où cette fois-ci, c'est un dieu, en l'occurrence, c'est Rontsou, qui est en train d'inscrire des années de règne. Vous voyez, il tient ici, il est en train d'écrire. Et vous avez l'indication des années de règne ici. Il inscrit des années de règne pour le couple en activité, c'est-à-dire Ptolémée III et Vergète ici, suivi de Bérénice II. Il s'agit donc, et les deux, pardon, sont représentés comme étant des dieux. Et ils sont donc en activité. Il s'agit d'une scène de légitimation de la royauté, déjà attestée aux périodes plus anciennes, c'est pas une nouveauté, mais elle a fait l'objet d'un développement à l'époque ptolémaïque. Notamment avec deux scènes qui se répondent et aussi la présence dans la reine qui est un ajout à cette période. La reine est désormais véritablement un élément légitimateur de la royauté et à ce titre, elle fait également partie intégrante du culte dynastique avec son époux. Une autre nouveauté ici, c'est la présence d'un titre d'Horus pour la reine. Un titre d'Horus, c'était un des cinq titres qui étaient donnés au pharaon. Et les Lagides ont continué avec cette tradition. C'est un titre d'Horus qui est féminisé, donc il est au féminin. C'est ce que vous avez dans le carré en bas à droite. Ce titre, en principe, était réservé donc aux pharaons en activité, et seules quelques reines, comme Néfrou-Sobek, Hatshepsut ou Taouzeret, l'ont porté durant les périodes les plus anciennes. Il s'agissait de reines qui avaient effectivement régné et porté une titulature complète de pharaon. Je redirai un petit mot sur ces reines à la fin de cette présentation. Ce titre d'Horus féminin est donc attesté sur cette porte des vergettes, mais également dans le décret de Canope, en grec, démotique et hiéroglyphe, et qui date du 7 mars 238. Ce décret évoque notamment les bienfaits du roi et de la reine au temple et aux dieux, et les honneurs qui sont accordés aux deux souverains, dont une statue qui était élevée dans les temples égyptiens. En outre, tout comme Arsinoé II avant elle, Bérénice II est intégrée dans le culte dynastique avec Ptolémée III. Ils reçoivent tous les deux l'épithète des dieux Evergètes dès 243. Donc cela fait écho à la double scène du culte dynastique et de la réception de la royauté que je vous ai montrée à Karnak juste avant. Par ailleurs, comme l'a relevé Virginie Joliton dans plusieurs études, Bérénice II porte également le titre de pharaon au féminin. Donc c'est le mot égyptien pour dire pharaon auquel on a ajouté la désinence du féminin. Ceci dans 9 papyrus démotiques, donc aucun en grec, entre 245 et 223. Vous avez ici un exemple qui provient d'Éléphantine et c'est votre source 2 de l'exemplier. Je lis juste, en 3 premiers mois de la saison arrête du pharaon Ptolémée, fils, donc Ptolémée III, fils de Ptolémée, fils de Ptolémée, et de la pharaon, donc au féminin, Bérénice. La présence de la reine ici n'est pas évidente à expliquer. Il s'agit uniquement de quelques cas isolés et uniquement en démotique. Cela reflète peut-être la stratégie de mise en avant de la reine dans le couple royal ou son rôle politique pendant l'absence du roi pendant la Troisième Guerre de Syrie. Enfin, Bérénice II bénéficie d'un culte individuel avec la mise en place d'une prêtresse qui lui est consacrée, l'Atlophore, mais ce culte est établi à titre posthume par son fils Ptolémée IV. Au final, Bérénice II est donc un élément central de la royauté, et cela dès son vivant.
Passons à Arsinoé III, avec cette reine qui épouse son frère Ptolémée IV vers 221, nous assistons à la mise en place d'une nouvelle stratégie, la présentation du couple royal en tant que partenaire politique. Cette action commune se manifeste en politique extérieure. Le roi et la reine font des dons d'argent pour renforcer des liens d'alliance entre les Lagides et des cités de Grèce centrale ou des îles de l'Égée. L'objectif était de faire barrage à la montée en puissance des rois de Macédoine, alliance avec des cités de Grèce centrale, et avec contre les rois séleucides, alliance avec des cités de l'Égée. En échange de leurs dons, les souverains ptolémaïques sont honorés par des statues, notamment à Delphes, et certaines cités de Béotie semblent avoir également frappé des monnaies en l'honneur ou à l'effigie de la reine Arsinoé III. De son côté, l'auteur latin Tite Live signale qu'une ambassade du Sénat de Rome, envoyée à Alexandrie en 210 avant notre ère, a apporté des cadeaux au roi et à la reine, celle-ci recevant notamment un manteau de pourpre, donc un insigne caractéristique du pouvoir. Le document choisi pour illustrer cette stratégie de partenariat politique est le début d'une lettre envoyée par Ptolémée IV à la cité de Thespie en Béotie. La lettre a été gravée sur pierre par les Thespiens pour faire valoir leur bonne relation avec les Lagides. On peut y lire, c'est votre exemplier document numéro 3, « Le roi Ptolémée à la cité de Thespie salue ce qui a été écrit par ma sœur, etc. » La suite est malheureusement perdue. Ptolémée IV fait donc référence ici à une lettre écrite par sa sœur Arsinoé III. Cette lettre a aussi été gravée par les Thespiens et elle est très partiellement conservée sur le même bloc de pierre. On y apprend que la reine avait de sa propre initiative fait un don en faveur du festival des Mouséas de Thespie. Ainsi, la reine pouvait agir en son nom propre, mais sa démarche était clairement, officiellement soutenue par son frère époux, et les deux souverains se présentent donc bien ici en tant que partenaires politiques.
En 219-217, la quatrième guerre de Syrie voit s'opposer Ptolémée IV au roi Séleucide Antiochos III. La bataille de Rafia, qui a eu lieu le 22 juin 217, met un terme à la guerre avec la victoire de Ptolémée IV. La présence d'Arsinoé III à Rafia est confirmée par plusieurs sources. Alors, d'abord, le décret de Rafia, dont vous avez une des versions sur cette diapositive, montre Arsinoé III sur le cintre, derrière Ptolémée IV, donc dans le carré blanc. Si la présence de la reine derrière le roi en soi n'a rien d'exceptionnel, surtout dans les scènes d'offrande, ce qui est particulier ici, c'est qu'elle est derrière le roi dans une scène dite de massacre de l'ennemi. Un type de scène qui est bien attestée tout au long de l'histoire de l'Égypte pharaonique. Mais ici, il y a quelques éléments nouveaux. D'une part, la présence de la reine justement dans ce type de scène, le fait que le roi est à cheval. Les pharaons, enfin les rois égyptiens des époques précédentes ne montaient pas à cheval, ce qui est le cas ici du roi macédonien en Égypte. Et Antiochos III est le seul ennemi, on a une restitution, on a d'autres versions de ce décret. Antiochos III est agenouillé et la reine accompagne donc le roi dans ce rituel, comme je l'ai dit. Alors, en soi, tout seul, ce n'est pas une indication suffisante pour parler d'une importance de la reine à Rafia. Mais nous avons d'autres sources.
En effet, deux sources plus tardives, des sources littéraires, viennent compléter les éléments fournis par le décret de Rafia. Tout d'abord Polybe, deuxième siècle avant notre ère, qui atteste de la présence d'Arsinoé III à Rafia. C'est le numéro 4 de votre exemplier, que vous avez aussi ici. Je le lis rapidement. « Ayant rangé leurs troupes, les deux rois avancèrent chacun le long du front, accompagnés de leurs hommes. Comme ils avaient mis leur principal espoir dans leur phalangite, ce fut à eux qu'ils adressèrent les appels les plus pressants. Aux exhortations de Ptolémée s'ajoutèrent les encouragements d'Andromachos, de Sosibios et d'Arsinoé, sœur du roi. La reine encourage donc les troupes lagides, ce qui atteste bien de sa présence sur le lieu de la bataille. Un passage du livre 3 des Maccabées nous donne d'autres précisions. C'est le numéro 5 de l'exemplier. Après cela, un violent combat s'engagea, et comme la situation tournait en faveur d'Antiochos, Arsinoé réagit de manière adéquate. Elle se mit à marcher entre les rangs des soldats, et la chevelure dénouée, elle les exhorta en suppliant et en pleurant de porter secours à eux-mêmes, à leurs enfants et à leurs femmes. Elle promit de donner à chaque homme 2 mines d'or en cas de victoire. Donc, selon le livre des Maccabées, Arsinoé III intervient de manière encore plus décisive que ce qui est montré par Polybe, en exhortant les soldats et en marchant dans les rangs. Le fait que la reine se soit adressée aux troupes est absolument exceptionnel. Nous n'avons pas d'autres exemples de reine d'époque hellénistique qui se serait adressée directement aux troupes. C'était en effet une prérogative du roi, éventuellement du général qui remplaçait le roi. Donc la combinaison de ces différents éléments, présence de la reine sur le cintre du décret de Rafia, présence de la reine attestée par Polybe et par le livre des Maccabées sur le champ de bataille et encouragement de la reine qui s'adresse aux troupes, semble effectivement montrer qu'elle a joué un rôle essentiel aux côtés de Ptolémée IV en tant que partenaire politique.
À partir de là, on pourrait se dire qu'elle a dû bénéficier de titres particuliers. Eh bien, pas du tout. Donc, elle n'a pas de titre spécifique, elle n'a pas de titre d'Horus comme c'était le cas pour Bérénice II. Elle n'est pas citée dans les papyrus après le roi. Elle est présente dans le culte dynastique, mais comme les autres reines avant elle, en tant que dieu Philopator, donc qui aime leur père, dès 216. Il y a également une prêtresse d'Arsinoé III à Alexandrie, mais comme pour les autres reines avant elle, cette prêtrise est instaurée après sa mort, en l'occurrence en 199-198. Par contre, le seul élément qui peut ressortir de différent dans cette documentation, en tout cas dans la documentation plus précisément égyptienne, c'est sa forte présence dans les temples égyptiens. Virginie Joliton a fait un décompte de toutes les attestations et elle en a compté 98, dont 92 déjà, rien que sur, pendant le vivant du règne de Ptolémée IV. Donc une très très forte présence de la reine dans les temples égyptiens, peut-être à mettre en lien avec son rôle politique plus important.
Cléopâtre I maintenant, qui était la fille du roi Séleucide Antiochos III et qui épouse vers 194-193 le roi lagide Ptolémée V. Cette reine, qui était donc externe à l'Égypte, externe à la famille des Ptolémées, a été admise au sein de la dynastie lagide et malgré son origine doublement étrangère, elle a bénéficié sous le règne de Ptolémée V d'un statut et d'un rôle officiel identique à celui des reines endogènes précédentes. Elle a été partenaire du roi dans l'octroi de bienfaits au temple d'Égypte ou à des sanctuaires panhelléniques hors d'Égypte, notamment à Délos. Le couple royal a envoyé conjointement une ambassade à Rome en 190 pour féliciter les Romains de leur victoire sur le père de Cléopâtre I, Antiochos III. Donc cette anecdote, qui nous est rapportée par Tite Live, montre que la reine avait pris fait et cause pour la dynastie de son époux et pour le royaume d'Égypte. Cela explique certainement sa très rapide intégration à la cour alexandrine, où elle paraît avoir bénéficié d'un très large et très solide réseau de partisans. Cléopâtre a reçu des honneurs comparables à ceux des reines qui l'ont précédée. Ainsi, son monogramme, Kappa, figure, donc Kappa pour Cléopâtre, figure sur plusieurs émissions monétaires de Ptolémée V, vous le voyez sur l'octadrachme présenté ici, au sein du petit cercle blanc. La reine figure aussi aux côtés du roi Ptolémée V sur des documents officiels, comme le décret de l'an 23, que vous avez aussi sur la diapositive, qui date de 182 avant notre ère. Ce document concerne notamment des bienfaits royaux envers les temples égyptiens. Cléopâtre figure sur le cintre, du décret dans le carré blanc, derrière Ptolémée V massacrant un ennemi. Donc on a une reprise de ce schéma iconographique que nous venons de voir avec Arsinoé III après la bataille de Raphia. Cléopâtre I bénéficie d'honneurs aux côtés du roi, telle l'élévation de statues dans tous les temples d'Égypte, à l'instar des reines précédentes.
Un changement notable intervient à la mort de Ptolémée V. En effet, il meurt en 180, laissant une épouse et trois enfants en bas âge. L'aîné des trois enfants, Ptolémée VI, est âgé uniquement de 6 ans. En examinant les protocoles des papyrus du début du règne de Ptolémée VI, on se rend compte qu'un changement important intervient à la tête du pays. Le premier papyrus que vous avez ici, le numéro 6 de votre exemplaire, livre en effet le texte suivant. Sous le règne conjoint de la reine Cléopâtre I et du roi Ptolémée VI, son fils, Dieu Épiphane, en 1. Le protocole donc commence avec le participe du verbe régner, basileo, au pluriel, que nous avons choisi de traduire par « sous le règne conjoint » afin de rendre la notion d'un règne avec plusieurs souverains. Vous voyez bien ici qu'il y a deux rois qui sont nommés dans l'ordre, la reine Cléopâtre, Basilissa, et le roi Basileus, Ptolémée, son fils. En démotique, la variante utilisée fait écho à la variante grecque. Nous avons dans ce cas, en 3, premier mois de la saison arrête, jour 22, des pharaons Cléopâtre, la mère, la déesse qui apparaît, c'est la traduction en égyptien d'Épiphane, avec Ptolémée VI, fils de Ptolémée, le dieu qui apparaît, donc Épiphane. En démotique, le choix des Égyptiens s'est porté sur père Aou, c'est-à-dire pharaon au pluriel, pour rendre le fait que plusieurs pharaons, justement, règnent ensemble. On peut donc affirmer que deux pharaons sont à la tête de l'Égypte et que Cléopâtre, la reine, la mère, est mentionnée avant son fils, ce qui montre qu'elle avait une position dominante vis-à-vis de lui dans ce règne conjoint. Avant elle, seul Bérénice II, dans quelques rares papyrus démotiques, avait été mentionné dans les protocoles après le nom de son époux. La situation ici est clairement différente. Cléopâtre I est systématiquement placé avant son fils pendant toute la durée de leur règne. Même s'il est court, il va de 180 à 177, date probable de la mort de la reine. Si on examine maintenant les prêtrises qui sont accordées à Cléopâtre I, à Alexandrie, elle est intégrée dans le culte dynastique, au même titre que les reines avant elle, dans les dieux Épiphane avec Ptolémée V. Elle n'a pas de prêtrise spécifique à Alexandrie, contrairement aux autres reines, pour une raison qui nous échappe. Par contre, c'est en Thébaïde, à Ptolémaïs, qu'apparaît une prêtrise qui lui est consacrée. On a en effet, à la mort de la reine en 177, un prêtre du pharaon Ptolémée VI et de Cléopâtre sa mère. Donc les deux sont associés ici, comme si c'était une sorte de continuation du règne à deux qui vient de se terminer, et cela jusqu'en 164. Je vous passe les détails. En 164, il y a différents événements politiques, historiques qui interviennent, qui font qu'il y a des changements au niveau des prêtrises, et notamment apparaît à ce moment-là une prêtresse de Cléopâtre I, la mère, mais Épiphane ou Charistos, qui est attestée pour elle, donc avec une prêtrise posthume pour Cléopâtre I.
Cléopâtre II, qui est la fille de Cléopâtre I et Ptolémée V, incarne mieux que n'importe quelle autre reine lagide le système du règne conjoint qui venait d'être inauguré, inventé, pourrait-on dire, par sa mère. En effet, après la mort de Cléopâtre I en 177, Cléopâtre II épouse d'abord son frère aîné, Ptolémée VI, alors qu'ils sont encore tous les deux des enfants, puis à la mort de celui-ci en 145, elle épouse son frère cadet, Ptolémée VIII. En tant que sœur épouse d'un roi, Cléopâtre II demeure sur le trône de 175 à 115. Elle est membre de 6 règnes conjoints, soit avec l'un de ses frères, soit avec ses deux frères, soit avec l'un de ses frères et sa propre fille. Au fil de ses règnes, elle apparaît comme la principale figure légitimatrice de la royauté, celle qu'on devait obligatoirement associer au pouvoir, quel que fût le nombre et la composition des souverains régnants. Enfin, ce qui est intéressant à noter, c'est que nous avons la certitude qu'elle participe activement à la gestion du royaume, notamment lors de son règne conjoint, de son long règne conjoint, avec son frère Ptolémée VI, entre 163 et 145. Elle reçoit des requêtes avec le roi, donc les requêtes sont adressées nommément aux deux souverains. Elle y répond avec le roi. Elle est associée au roi dans la promulgation de certains édits. Elle voyage dans le pays avec le roi. Et en outre, elle dispose de son propre cercle de courtisans qui comprenait également des officiers supérieurs de l'armée. Elle jouit de revenus personnels et d'une flottille de navires commerciaux à son nom sur le Nil. Le bas-relief que vous avez ici provient du temple de Deir el-Medina. Il a été gravé entre 168 et 164, alors que le pays était dirigé par un trio composé de Ptolémée VI, de Ptolémée VIII et de Cléopâtre II. Les trois souverains sont figurés en train de faire des offrandes aux dieux, Amon-Ré, Amon et Amonet. Ce document prouve que les reliefs de temples n'étaient pas complètement figés et qu'ils pouvaient refléter la situation institutionnelle et politique du royaume au moment précis de la gravure du bas-relief. Ici, vous voyez que Cléopâtre II figure derrière ses deux frères en dernière position. Cela reflète en effet sa place hiérarchique dans le trio régnant au moment où le bas-relief a été gravé, entre 168 et 164. À partir de 163, Cléopâtre II occupe le deuxième rang hiérarchique, juste derrière le roi, et elle va garder ce deuxième rang jusqu'à sa mort en 115, que le règne conjoint compte deux ou trois souverains. Les protocoles de datation sur papyrus nous informent avec une grande précision du rang hiérarchique de Cléopâtre II dans ses différents règnes conjoints. Comme l'a dit Giuseppina Lenzo tout à l'heure, le nombre très élevé de protocoles mentionnant Cléopâtre II et dont nous disposons nous permet de suivre la situation institutionnelle du royaume égyptien presque mois par mois entre 175 et 115. Nous vous avons donc donné ici trois exemples pour que vous puissiez voir comment on suit cette évolution institutionnelle. Le premier protocole que vous trouvez au numéro 8 de l'exemplier date de 170. Il dit ceci: sous le règne conjoint de Ptolémée VI, de Ptolémée le frère et de Cléopâtre II, les enfants de Ptolémée V et de Cléopâtre I, Dieu Épiphane en 1. Nous sommes donc dans un règne à trois souverains et Cléopâtre figure au dernier rang, exactement comme sur le relief que vous venez de voir de Deir el-Medina. Le deuxième protocole, numéro 9 de votre exemplier, date de 158. On y lit: sous le règne conjoint de Ptolémée VI et de Cléopâtre II, les enfants de Ptolémée V et de Cléopâtre I, Dieu Épiphane en 23. Nous sommes ici dans un règne conjoint à deux souverains et Cléopâtre figure juste derrière son frère époux Ptolémée VI. Enfin, le troisième protocole, votre numéro 10 sur l'exemplier, date de 131 et il est tout à fait exceptionnel. Très court mais exceptionnel. On lit: sous le règne de Cléopâtre II, déesse Philométor Sotéira en 2. Donc vous constatez que dans ce troisième exemple, à la différence des deux premiers, Cléopâtre II est mentionnée ici comme unique souveraine, avec le participe du verbe basileo au génitif féminin singulier. Ce document est en effet l'un des rares témoignages de la guerre civile qui a éclaté en 132 avant notre ère en Égypte et qui a opposé d'un côté Ptolémée VIII et son épouse Cléopâtre III et de l'autre côté Cléopâtre II. Ptolémée VIII et Cléopâtre III ont été chassés par les Alexandrins tandis que ces derniers soutenaient Cléopâtre II. Durant les premières années de la guerre civile, Cléopâtre II règne seul sur une partie de l'Égypte pendant que Ptolémée VIII se réfugie à Chypre. Mais en 127, Ptolémée VIII reconquiert le pays et contraint sa sœur à chercher refuge en Syrie. 124, au terme de tractations diplomatiques complexes que je ne vais pas évoquer ici, Cléopâtre II retrouve sa place dans un règne conjoint et reprend son rang qu'elle avait avant le déclenchement de la guerre civile, donc en deuxième position, juste derrière Ptolémée VIII. La situation parfaitement inhabituelle qui est révélée par ce protocole numéro 3, qui est celle d'un règne féminin solitaire, n'avait probablement pas été souhaitée par Cléopâtre II. Il est vraisemblable qu'au moment de l'exil de la chute de Ptolémée VIII, Cléopâtre II désirait former un nouveau règne conjoint avec l'un de ses deux fils mineurs encore en vie. Mais ses deux fils ont été assassinés par Ptolémée VIII précisément pour empêcher, pour contrer les ambitions politiques, les visées de Cléopâtre II. En tant qu'unique souveraine d'Égypte, entre 132 et 127, Cléopâtre II a contrôlé Alexandrie et quelques villes au sud du pays. Elle a également nommé les prêtres du culte dynastique à Alexandrie. Pendant quelques années, elle s'est donc comportée autant que possible comme l'aurait fait un souverain masculin. Elle manquait toutefois de soutien militaire et elle manquait aussi, peut-être encore plus cruellement, du soutien de la population locale, notamment des prêtres indigènes qui se sont rangés du côté de Ptolémée VIII. Et cela peut expliquer, ces deux facteurs peuvent expliquer son échec face à la reconquête du pays par Ptolémée VIII.
Pour Cléopâtre II, il nous reste à examiner encore ses prêtrises. Comme vous l'avez vu, ses prêtrises sont assez révélatrices du statut de la reine. Alors, à Alexandrie, elle partage l'épithète divine des dieux Philométor avec Ptolémée VI et celle des dieux Évergète avec Ptolémée VIII et à un certain moment avec Cléopâtre III également. Et il y a deux éléments remarquables pour Cléopâtre II. Tout d'abord, celle que nous venons de mentionner, elle est déesse Philométor Soitera avec les autres lagides divinisés pendant la guerre civile. Donc c'est un cas exceptionnel d'avoir une reine seule qui fait partie de cette liste des rois en tant que reine seule et sans roi. Et en Thébaïde, elle a également une prêtrise, c'est la prêtresse de la reine Cléopâtre II, mais qui apparaît déjà en 171, c'est-à-dire de son vivant. C'est la première fois qu'une reine lagide a une prêtrise, une prêtresse qui est consacrée à son culte alors qu'elle est encore en vie. Toutes les autres avaient une prêtrise, une fois qu'elles étaient mortes.
La période qui va de 115 à 30 avant notre ère mérite d'être réexaminée sous l'angle du statut des reines. Nous allons nous y employer tout prochainement avec Madame Lenzo. Néanmoins, on peut affirmer que pendant cette période, les règnes conjoints ont été majoritaires en regard des règnes à un seul souverain. Nous dénombrons en effet 10 exemples de règnes conjoints avec des compositions variées, mari-femme, père-fille, mère-fils, voire un règne conjoint mère-fille. Sur la même période, on n'a que 5 exemples de règne à un seul souverain, 3 règnes avec un roi seul et 2 règnes avec une reine seule. Mais ces règnes féminins solitaires apparaissent toujours ou correspondent toujours à des situations exceptionnelles. Il faut retenir de cette période qui va de 115 à 30 avant notre ère, 2 figures royales féminines marquantes par le pouvoir dont elles ont disposé, bien qu'elles n'aient pas régné seules. D'abord Cléopâtre III, qui a formé des règnes conjoints avec chacun de ses deux fils adultes entre 115 et 101 avant notre ère. Et puis bien entendu Cléopâtre VII, qui de 51 à 30 a régné d'abord avec chacun de ses frères cadets, puis avec son fils mineur Césarion. J'en viens maintenant à la conclusion. Sur la période allant de 300 à 115 avant notre ère, on constate qu'on passe d'une reine compagne du roi, avec un rôle plus ou moins officiel, à une reine membre d'un règne conjoint, avec un rôle politique actif, admis et reconnu. On constate aussi que le règne conjoint, incluant au moins une femme, devient le système majoritaire à partir de son introduction sous Cléopâtre I en 180. Enfin, on constate que le règne féminin seul est toléré, mais uniquement lorsque les circonstances empêchent de faire autrement. En revanche, ce règne féminin solitaire n'est jamais valorisé. Il était considéré comme une exception par les Égyptiens eux-mêmes. Au final, nous pensons, Madame Lenzo et moi, que trois éléments ont favorisé le pouvoir des reines lagides. Les cultes, notamment le culte dynastique, la mise en valeur du couple conjugal, qui est souvent conçu comme un partenariat politique, et enfin, le système du règne conjoint mixte. L'évolution du statut des reines lagides de 300 à 115, voire de 300 à 30 avant notre ère, est donc absolument remarquable. Il ne dispose d'aucun autre parallèle dans les royaumes hellénistiques. Donc, pour terminer cette présentation, nous nous sommes posé la question de l'existence ou non de modèles qui pourraient expliquer ce caractère unique du pouvoir féminin chez les lagides. Le premier modèle auquel on pourrait penser est celui des reines macédoniennes, notamment la mère d'Alexandre, Olympias, et ses demi-sœurs, Kina et Cléopâtre, ou encore sa belle-sœur, Adéa Eurydice. Toutefois, le rôle politique de ces femmes, même leur activité militaire, ne sont absolument pas discutables, ils sont clairement attestés, mais ils se sont essentiellement limités à la période de vacance du pouvoir qui a suivi directement la mort d'Alexandre, grosso modo entre 323 et 317 avant notre ère. Et sur les quatre royaumes issus des conquêtes d'Alexandre, donc royaumes Lagide, Séleucide, Antigonide et Attalide, seuls les Lagides ont accordé un statut aussi important aux reines. Donc le modèle macédonien ne fonctionne pas véritablement.
Alors, l'autre modèle auquel on pense, évidemment, c'est le modèle égyptien. Vous avez ici, dans ce tableau, les quatre ou cinq reines qui ont effectivement pris le titre de pharaon en Égypte ancienne. Donc cela montre que c'était effectivement possible pendant l'Égypte ancienne. Vous avez ici ces cinq reines. Alors la première, dont le règne est situé à la fin de l'Ancien Empire avec Nitocris, sa réelle identité, enfin plutôt ça, on a récemment remis en question le fait que c'était une reine, et je ne vais pas vous expliquer les détails ici, mais il s'agirait peut-être en réalité d'un roi et qu'on a mal interprété en fait son nom. Mais elle est citée chez Hérodote et chez Manéthon notamment. Les autres sont assurés aujourd'hui. Vous avez Néfrou-Sobek, qui est la dernière souveraine de la 12e dynastie, dans une période assez confuse. Vous avez la fameuse Hatshepsut, Merita-Ton, Néfer-Néferouaton, à la fin d'une dynastie durant la période dite amarnienne, entre Akhenaton et Toutankhamon. Taouzeret, dernière aussi pharaon d'une dynastie, après une période de régence, durant une période confuse également. Donc vous voyez que sur tous ces exemples, chacune de ces reines a pris le titre de pharaon dans des circonstances tout à fait particulières et à des moments où, en fait, il n'y avait probablement pas d'héritier mâle qui pouvait prendre le trône, ou en tout cas des circonstances compliquées au sein du royaume d'Égypte. Le seul cas à part, c'est celui d'Hatshepsut, qui, elle, prend le titre de pharaon au milieu d'une dynastie, dans une période où il n'y avait pas de problème particulier, alors que le pharaon était en bas âge, Thoutmôsis III, mais il y a un pharaon qui est censé régner, qui est donc Thoutmôsis III. Alors on a souvent dit que ces reines n'auraient pas, qu'elles ne pouvaient pas régner. Alors le fait qu'il y en ait quatre ou cinq est à la fois, comme on le disait ce matin, c'est à la fois, ça montre que c'était possible, mais en même temps le fait qu'il y en ait quatre ou cinq sur une période de 2700 ans montre aussi que c'était des cas exceptionnels. Le fait qu'on dit souvent, on l'a dit également ce matin, que ces reines sont souvent en des traits masculins, en réalité, si je vous montre quelques exemples ici, justement avec Sobek-Nefrou pour le Moyen Empire et Hatshepsut sous sa forme féminine, vous voyez qu'elles ne cachent pas leurs attributs féminins. On voit notamment la poitrine et on voit très bien qu'il s'agit d'une femme. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, Tout le monde n'est pas d'accord avec cette hypothèse, mais il semblerait qu'à un certain moment, Hatshepsut revêt des traits masculins. Mais on peut se demander si c'est parce que c'était une femme qu'elle revêt des traits masculins ou si son pouvoir était contesté simplement parce qu'il y avait déjà un pharaon, c'est-à-dire qu'il y avait déjà toute Moïse III qui était en place et que donc, dans les faits, elle n'aurait pas dû simplement prendre le pouvoir parce que le roi était bien et bien en vie à ce moment-là. Donc, comme je l'ai dit, l'Égypte admettait la présence d'une femme sur le trône, mais il faut aussi relativiser. Donc, on ne peut pas non plus reprendre tel quel le modèle, on ne peut pas reprendre le modèle macédonien et pas non plus le modèle égyptien pour expliquer le pouvoir des reines lagides. On remarque quand même, toutefois, que la culture pharaonique était un terreau favorable sur lequel on puisse développer des innovations lagides propices aux reines, notamment la mise en valeur du couple et du culte dynastique. En outre, des circonstances particulières à certains règnes, on songe notamment à la mort inattendue de Ptolémée V, qui a conduit au premier règne conjoint lagide entre Cléopâtre I et son fils mineur, ont permis l'instauration de nouvelles structures institutionnelles. Une des caractéristiques lagides par rapport aux autres royaumes hellénistiques, c'est que chaque nouveau roi a repris et développé les innovations de son prédécesseur jusqu'à la célèbre Cléopâtre VII. Et pour terminer, voici donc une représentation d'Hatshepsut et Thoutmôsis III, ce que je vous disais tout à l'heure, les deux règnent en même temps. Et ici, vous avez une version d'Hatshepsut en homme, donc c'est la première, hein, elle est devant Thoutmôsis III. Et puis l'exemple, célèbre exemple de la Cléopâtre VII, qui est sur cette représentation derrière son fils Césarion. Nous vous remercions de votre attention.